Le journal de Léonie Edrover.
Bonsoir. Coup dur pour les finances des ménages jurassiens. Les primes d'assurance maladie vont augmenter en moyenne de 9,1% l'année prochaine dans le canton. C'est davantage que la hausse annoncée sur le plan national. Le conseiller fédéral Alain Berset, on l'entendra dans ce journal, estime que la seule solution consiste à agir sur les coûts. Il dénonce l'absence de majorité au sein du Parlement. Le ministre jurassien de la Santé, Jacques Gerber, est notre invité en direct. Le ski a désormais son musée en Suisse et il se trouve au Bouéchet. Le lieu dédié à l'histoire de la glisse ouvrira ses portes samedi dans l'ancien restaurant de la gare. Les visiteurs y découvriront la collection amassée depuis près d'un demi-siècle par Laurent Donzé. Fraîcheur matinale, chaleur en journée, la météo ne va pas beaucoup évoluer ces prochains jours. Niveau température, on s'achemine vers des records pour début octobre. Aucune franche dégradation n'est en vue. C'est un nouveau coup de massue sur le portefeuille des jurassiens. Les primes maladie vont augmenter de 9,1% l'année prochaine dans le canton, 8,7% au niveau national, la plus forte hausse depuis 20 ans. Principales explications avancées, la hausse des coûts de la santé plus importante que prévue et des caisses qui auraient trop puisé dans leurs réserves ces dernières années pour proposer des primes basses. La prime moyenne pour un adulte jurassien sera de 468 francs. Jérémy Pignard, vous recevez le ministre jurassien de la Santé pour commenter cette hausse historique.
Bonjour Jacques Gerber.
Bonjour.
Plus 9,1%, votre première réaction, monsieur le ministre, on a entendu les quelques causes. Est-ce que c'est une hausse à ce point justifiée ?
Alors la hausse est justifiée, par contre elle est, c'est vrai, dans cet environnement inflationniste catastrophique pour l'ensemble des ménages qui devront effectivement en 2024 débourser davantage pour leur prime caisse maladie avec jusque-là des possibilités et j'invite l'ensemble des citoyennes et des citoyens à rechercher la caisse la meilleure marché parce que nous avons de grandes variations d'augmentation entre les différentes caisses, ça va de 3% à 15% dans certaines caisses.
Alors justement, nous sommes allés dans la rue cet après-midi au centre commercial demander à quelques jurassiens comment ils réagissaient face à cette hausse de 9,1%. Je vous propose, Jacques Gerber, de les écouter.
C'est de la folie, ça fait peur. Pour ma part, ça va, mais il y a des familles qui n'arrivent plus à joindre les deux bouts. Moi, je trouve ça scandaleux. C'est que politique, j'entends. Pour finir, ça fait un charabia, moi, voilà.
C'est bien malheureux parce que dans le pays de la finance, visiblement, on ne gère pas bien. J'ai un peu du mal avec la plomberie fédérale et puis en ce moment, j'y comprends plus rien. Moi, je pense qu'il y a plein de gens qui parlent de la caisse unique. Maintenant, il faudrait que les radicaux et puis les autres gens de droite dans ce pays comprennent enfin qu'il n'y a pas d'autre solution.
Ah, mais je voudrais bien qu'ils fassent une réforme là-dessous, que ça revienne comme en Espagne, que c'est une caisse maladie pour tout le monde et puis tout le monde pareil.
Il faudrait qu'il y ait quelque chose qui change en profondeur, déjà juste au niveau du système de la santé. On nous force à aller voir des spécialistes, on passe par des passages très chers et puis je pense que c'est pour ça que les caisses maladies augmentent fortement. Je m'inquiète quand même énormément, je suis maman de deux enfants et puis il n'y a pas que ma caisse maladie qui augmente, il y a celle de mes enfants, il y a celle de mon concubin qui est père au foyer, donc ça devient difficile. Ce sera bientôt de la survie.
De la survie, Jacques Gerber, dans un contexte, vous l'avez rappelé, déjà d'inflation. Est-ce que vous reconnaissez que ça devient déjà très problématique et qu'est-ce qu'on peut répondre à ce cri d'alarme des jurassiens ?
Mais ça fait des années que c'est problématique, ça fait des années que les ministres de la Santé au niveau cantonal tirent la sonnette d'alarme. On le fait une nouvelle fois aujourd'hui. Parfois, on a l'impression effectivement de tirer la sonnette d'alarme dans le vide. Ça fait 8 ans que je vous rejoins régulièrement au mois de septembre pour commenter l'augmentation de ces prix. On entend effectivement des partis qui s'opposent, des intérêts divergents au niveau national. Je crois qu'il faut cesser, j'aime bien le terme de charabia, parce qu'il y a beaucoup de charabia aujourd'hui.
Vous aussi, vous ne la comprenez pas finalement cette hausse, vous ne comprenez plus ce système ?
On comprend l'augmentation des coûts, mais ils ont des causes multiples. Il faut arrêter de chercher des coupables, il faut amener des solutions. Vous savez, nous n'avons aucune loi sanitaire en Suisse. Donc on gère un système sans avoir de guide, sans avoir d'objectif, sans savoir quel est le système dans les faits. C'est juste une assurance au niveau national qui gère finalement les risques liés à l'apparition ou non d'un symptôme chez un citoyen qui devient un patient. Il faut juste arrêter ce système, se mettre ensemble pour discuter du financement, discuter des prestations, discuter de l'organisation pour offrir ces prestations.
On est arrivé au bout du bout, justement, on entendait les jurassiens qui disaient qu'ils n'avaient plus confiance dans ce système. Et aujourd'hui, la Conférence latine des affaires sanitaires et sociales, dont fait partie le Jura, demande des données récentes et fiables sur l'évolution des coûts. Sous-entendu, ce n'est toujours pas transparent, ce que vous dénonciez déjà aussi en 2017. On est arrivé au bout du bout, il faut dire stop.
Mais on est arrivé au bout du bout, je le dis chaque année. Donc on ne sait pas vraiment où il est, le bout du bout, parce qu'on a des augmentations.
Mais on le conserve toujours, mine de rien. La Suisse le conserve toujours, ce système.
Parce qu'on est dans un système où effectivement, ou dans un pays où il y a de l'argent, et puis jusqu'à maintenant, on a pu payer quelque part ces inefficiences. Et aujourd'hui, on arrive au bout du système où on reporte une partie des coûts sur les primes de caisse maladie. Ça, c'est exact. Maintenant, il faut bien se rendre compte que nous sommes dans un système où nous avons une dynamique au niveau des coûts, nous devons essayer de le freiner, trouver d'autres modes de financement. Et puis là, je pense qu'il y a à prendre dans tous les partis. Simplement, il faut avoir le courage d'oser se mettre autour d'une table, arrêter les polémiques, surtout qui n'apportent rien en termes de gestion du système de santé, créer des majorités pour réellement changer le système.
Vous parliez de majorité, écoutez ce que disait Alain Berset cet après-midi justement à ce sujet.
La seule manière efficace de limiter la hausse des primes, c'est d'agir sur les coûts. Et nous avons proposé avec le Conseil fédéral de très nombreuses réformes pour réduire les coûts, notamment plus d'un milliard d'économies dans les médicaments depuis 2012, la révision du TARMED avec une économie de 470 millions. On a pu montrer durant toute une partie de cette période qu'une certaine maîtrise des coûts est possible. Mais il y a un moment où il faut modifier des lois et malheureusement, beaucoup de mesures proposées par le Conseil fédéral n'ont simplement pas abouti.
On n'a jamais réussi à trouver de solution parce que pas de majorité politique. Comment on fait finalement, Jacques Gerber? C'est quoi la solution aujourd'hui? Est-ce qu'on repart d'une page blanche ou est-ce qu'on essaye de réformer ce système existant mais qu'on dit chancelant?
Il y a deux processus temporels parallèles à mener. Il y a la réflexion de fond qui prendra du temps parce qu'il faut construire une loi sanitaire, revoir le modèle, pourquoi pas des régions sanitaires organisées autour des hôpitaux universitaires, en oubliant quelque part un petit peu les cantons, parce que ces derniers, on le voit, n'ont pas réellement la marge de manœuvre pour contrôler correctement les coûts. On doit introduire un financement unique en replaçant le patient au centre du processus. Aujourd'hui, nous avons une vision beaucoup trop hospitalo-centrée qui envoie les gens à l'hôpital, alors que peut-être on peut travailler différemment en ambulatoire, peut-être à domicile. On le voit avec une population qui vieillit, des technologies qui évoluent, il ne faut pas s'attendre à une baisse significative des coûts, on doit essayer de le contrôler. Et puis nous devons également trouver peut-être une autre répartition au niveau des financements, d'autres organisations quant au financement. Je crois qu'il faut aborder les choses sans tabou, sans idéologie, et je me réjouis d'entendre malheureusement d'un ministre sortant, mais socialiste, que l'on doit travailler sur les coûts.
Justement, on a souvent culpabilisé les dernières années le citoyen en lui disant qu'il allait trop chez le médecin pour de la bobologie. La dérive, est-ce qu'elle ne vient pas aussi des professionnels qui doivent délivrer plus de prestations pour gagner plus?
Mais encore une fois, je pense qu'il faut arrêter de chercher des coupables. Il faut aller chercher des solutions dans tous les domaines. Oui, nous avons trop de prestations dans certains domaines. Est-ce que c'est le consommateur ou celui qui offre les prestations? Nous avons un système d'analyse du sang, analyse générale au niveau de la santé qui sont trop fréquentes, qui souvent se cumulent en fonction du changement de médecin. Encore une fois, nous devons changer le système, nous devons avoir un filtre avec des médecins généralistes versus des infirmières en soins avancés qui permettent effectivement, si le cas est grave, d'envoyer chez des spécialistes et ensuite d'hospitaliser ou non en fonction des besoins. Mais nous devons arrêter avec un système qui n'a aucun contrôle, que ce soit au niveau des prestations, que ce soit au niveau de la consommation et que ce soit au niveau du financement. Et pour ce faire et pour trouver des majorités, on doit se mettre autour d'une table. C'est mon souhait et le vœu, je dirais également, de l'ensemble des responsables de la santé romande, de générer, d'engager ce débat au niveau national.
On retiendra effectivement que vous êtes pour un grand débat, remettre tout ça sur la table. Merci beaucoup Jacques Gerber d'avoir accepté notre invitation. Très bonne fin de journée.
Pareillement.
Le musicien jurassien Emmanuel Coumer est décédé. Selon nos informations, il aurait succombé à un arrêt cardiaque dimanche. Le guitariste, bassiste, contrebassiste et auteur-compositeur était âgé de 55 ans. Le premier musée du ski en Suisse accueillera ses premiers visiteurs dès samedi au Bouéchet. L'exposition aménagée dans l'ancien restaurant de la gare du village franc-montagnard est consacrée à l'histoire du ski alpin et du ski nordique. Présentée aujourd'hui à la presse, elle met en valeur la collection acquise au fil des ans par Laurent Donzé. Celle-ci se compose notamment de skis, chaussures, fixations, bâtons, fartes ainsi que de nombreux documents. Une exposition temporaire permettra d'aborder d'autres thématiques. L'émotion est au rendez-vous pour le cofondateur et conservateur du musée du ski au moment de présenter les pièces qu'il a commencé à récolter au milieu des années 70. Laurent Donzé.
C'est vraiment une journée en tout commun. Tout d'abord, point de vue, je pense, émotif. Hein. Voir qu'en partant de quelques périodes de ski dans une grange, on arrive un jour à un musée, le chemin est tellement long. Puis quand je pense à tous les gens qui m'ont aidé, toutes les rencontres que j'ai faites, évidemment, c'est débordant d'émotions. On n'a jamais eu de projet à ce niveau-là. C'est une suite de rencontres, de personnes, de hasard aussi, il faut le dire, hein, qui a fait qu'on arrive aujourd'hui à un musée.
Tu peux nous expliquer comment les choses se sont faites pour arriver à ce musée?
Alors là, il faut distinguer deux choses très distinctes. La collection, qui est le sport de la collectionnite, c'est un sport assez sympathique que j'ai découvert après le ski. Et puis après, bon, le grand événement, c'est de trouver une personne qui est prête à financer le musée. Ça, c'était le déclic qui était inespéré. Parce que souvent, les collections, ben, elles vont disparaître avec le collectionneur.
Quel est le joyau pour vous de cette collection? Est-ce qu'il y a une pièce qui sort un peu du lot à vos yeux?
Non, pour moi, je n'ai pas de pièces qui sortent de l'ordinaire. Des pièces qui ont une charge affective plus que d'autres. Parce que j'ai connu le skieur ou la skieuse. Après, il y en a d'autres qui sont de loin, d'assez loin. Je me suis déplacé, où j'ai fait 500 km pour aller chercher les skis. Mais la pièce elle-même, pour moi, c'est un tout. C'est une chaîne et chaque maillon a sa place.
Vous avez quand même une anecdote avec Max Müller, notamment?
Oui, j'ai une anecdote avec Max Müller, qui a participé aux Jeux Olympiques de 1948 à Saint-Moritz, qui m'avait donné ses skis dans les années 80. Et puis, 25 ans plus tard, j'ai fait une exposition. Et puis, entre-temps, Max Müller avait vieilli, il avait 104 ans. Il est venu à l'exposition, il a regardé ses skis, il les sentait, il les regardait. Je voyais dans ses yeux que toute son histoire ressortait. C'était extrêmement émouvant.
Laurent Donzé était au micro d'Émilie Momentaler. Le musée du ski propose des portes ouvertes ce week-end au Bouéchet. Découvrez-le en images et en vidéo sur notre site internet. Les citoyens de Courtétel sont conviés à une assemblée communale extraordinaire ce soir. Au programme, un crédit de 760 000 francs pour les travaux de réfection de la rue du Clos-Bella, à financer par emprunt bancaire. Le rendez-vous est donné à 20h à l'aula de l'école. Ils sont 10 dans le Jura à briguer un siège au Conseil national au nom de la jeunesse. Issus de 5 partis différents, ces candidats se présentent aux élections fédérales sur des listes jeunes. C'est le cas au Parti socialiste. Léo Beuret a 23 ans et il estime qu'il est important d'inciter les moins de 30 ans à s'engager en politique. Il s'agit selon lui de susciter de l'intérêt.
Faire des listes de jeunes pour que la jeunesse se sente représentée, mais ça va à tous les niveaux, communal, cantonal et aussi fédéral. Et faut pas hésiter à être proche de la population, proche des jeunes, en discuter. Les jeunes ne se sentent pas représentés parce qu'on a un Parlement qui est extrêmement vieillissant. On a l'impression que c'est la politique par les vieux, pour les vieux. Faut faire comprendre aux jeunes que la politique, ça prépare le monde de demain et que c'est nous qui serons le plus concernés par ça.
Zoé Seret, 26 ans, est aussi candidate de la jeunesse socialiste pour une place au national. Et pour elle aussi, la génération Z doit être invitée à s'intéresser à la politique.
À la jeunesse socialiste, on a plusieurs stratégies pour rentrer en contact avec la jeunesse, comme par exemple écrire des courriers aux jeunes électeurs électrices, être sur le terrain ou encore produire du contenu par le biais des réseaux sociaux.
Les portraits des jeunes candidats socialistes Léo Beuret et Zoé Seret sont à retrouver sur notre site rfj.ch, ainsi que l'émission de ce matin où notre rédaction a décortiqué le programme du parti avec ses autres candidats au national, Pierre-Alain Fridet et Loïc Deblair.
RFJ, il est 18h15.
Sport. Le HC Ajoie en quête d'un premier succès sur la route. Il prend la direction de Kloten ce soir à 19h45 dans le championnat de National League. Les hockeyeurs jurassiens n'ont pas encore empoché le moindre point loin de leur base cette saison. Ils tenteront d'y parvenir sur la glace zurichoise pour reléguer leur adversaire du jour à 4 longueurs au classement. Kloten Ajoie, c'est un duel à vivre sur RFJ ce soir dès 19h30 en direct avec le commentaire de Raphaël Chalvera et des réactions demain dans la matinale. En proie à de nombreuses blessures, Davos réagit sur le marché des transferts. Le club grison de National League de hockey sur glace a mis sous contrat le Slovaque Tomas Jurko. Il a engagé l'ailier pour un mois. L'attaquant de 30 ans sort d'une saison passée en KHL dans un club chinois. Et puis l'UEFA réintègre les équipes russes de jeunes à ses compétitions. Décision prise aujourd'hui. L'instance qui chapeaute le football continental estime que les enfants ne doivent pas être punis pour des actes dont la responsabilité incombe exclusivement aux adultes. Les équipes seniors restent bannies des compétitions européennes, comme c'est le cas depuis un an et demi et le début de l'invasion russe en Ukraine. Merci de votre fidélité. Très bonne soirée.